Ce stade n'est pas beau, il est le plus beau.
Bienvenue dans Archi Intéressant, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Dans cette saison 3, suivez-nous à la découverte des lieux les plus connus du sport, les stades, pour comprendre comment ces infrastructures, par leur histoire, leur architecture et leur fonction, se sont imposées dans le paysage français. Dans cet épisode, direction Paris et le Parc des Princes avec le journaliste Quentin Tenot.
Nous sommes à l'extrême sud-ouest de Paris, au Parc des Princes. Dans 2 heures, l'équipe féminine du PSG rencontre celle de la Roma pour un match de Champions League. Ce qu'on entend, c'est la douce ambiance du périph' parisien. J'ai donné rendez-vous à mon invité sur un pont, drôle d'endroit pour se retrouver, mais la vue est saisissante. Le stade a été construit au-dessus de ces 2x4 voies de bitume où passent chaque jour 200 000 véhicules. De quoi donner des sueurs froides à son architecte, Roger Taillibert, décédé en 2019. C'est son biographe Alain Orlandini que je retrouve pour comprendre comment Taillibert a pu réaliser cet exploit en 1972.
Alors là, on se trouve au-dessus du périph. Et je suis assez ému parce que un archi lambda à qui on aurait dit « Tu peux nous faire un stade au-dessus d'un périph ?» Il t'aurait poliment remis en place et le stade ne se serait pas fait. Pour Roger, voilà, c'est pas un problème. C'est un défi constructif qui est à l'image de sa personne. Voilà. Structurellement, bah, ça le fait, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que effectivement, le périph passe sous le stade, mais la structure du stade a été pensé de façon à ce que les éléments porteurs qui soutiennent les portiques sont positionnés entre les 2 voies du périph, au milieu. Voilà.
Avant les années 70 et la prouesse architecturale qu'on connaît aujourd'hui, le stade existait déjà sous une autre forme. Pour comprendre ces évolutions, j'ai fait appel à un historien.
Donc je suis Julien Sorez, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre et historien du sport.
Julien Sorez est l'auteur du livre « Le football dans Paris et ses banlieues, un sport devenu spectacle ». Il m'explique en quoi le Parc des Princes était déjà moderne il y a plus d'un siècle.
Alors le Parc des Princes, qui s'appelle d'abord le Vélodrome du Parc des Princes, est construit en 1897 et il est à l'initiative d'Henri Desgranges, un ancien cycliste professionnel, devenu organisateur de courses cyclistes, qui fait donc construire un vélodrome d'un tour de piste de 666 mètres de long, qui peut accueillir environ 12 000 personnes. Ce vélodrome connaît un important succès commercial et populaire, puisque il y a de nombreuses courses cyclistes, évidemment, qui y sont organisées. Ça devient aussi le lieu d'arrivée des grandes courses, comme par exemple le Tour de France.
Les 3 coureurs arrivent ensemble au Parc des Princes.
On peut considérer que ce vélodrome est un peu le laboratoire du sport-spectacle dans la première moitié du XXe siècle, et il peut s'appuyer en fait sur les liens très forts qu'il a avec le journal Lotto, qui est le grand quotidien sportif de l'époque, puisque Henri Desgranges en est un des directeurs dès la création du journal en 1901.
Mais cette enceinte ne convient pas totalement. Le stade est alors reconstruit en 1931, la piste est raccourcie et 2 vastes tribunes pouvant accueillir 24 000 spectateurs sont construites. Avec les virages, on compte alors près de 60 000 personnes les jours d'événements.
C'est vraiment un stade qui est moderne, hein, dans le sens où les journalistes ont des cabines téléphoniques particulières. Et c'est le moment aussi où on divise vraiment le stade en nombreuses catégories de places, qui chacune ont leur entrée, leur escalier d'accès, leur toilette, leur bar. Il y a même des loges dans la tribune principale qui s'appelle la tribune Lotto à l'époque. C'est vraiment à cette époque-là qu'on se pose la question de la rationalisation de l'assistance au stade et qu'on essaye de canaliser et les flux et les comportements.
Et puis, nouvelle rénovation en 1972, c'est celle qu'on observe aujourd'hui. Le nouveau Parc des Princes éclipse définitivement le vélo et l'arrivée du Tour de France. Il devient le lieu du football et particulièrement de son club résident, le PSG.
Dans cette période-là, on peut aussi considérer que l'histoire du parc devient pleinement parisienne. D'abord d'un point de vue géographique, puisque le vélodrome de 1931 déjà est reconstruit uniquement sur la commune de Paris, alors que le premier vélodrome de la fin du 19e était à cheval entre la commune de Paris et la commune de Boulogne, qui se partageaient par conséquent les taxes qui étaient prélevées sur le spectacle. Mais cette mutation parisienne, elle est aussi sportive, puisque le club des résidents devient le PSG, et on a une association entre un club, un stade, une ville.
Retour au XXIe siècle. Avec Alain Orlandini, nous nous rapprochons du stade, et il m'explique en quoi cette construction est unique.
Là, on est à l'extérieur du Parc des Princes. C'est une architecture en béton brut. On pourrait parler de la grande architecture française, c'est comme ça qu'on la définissait à l'époque. Bon. À l'époque, en 1972, on construisait peu de bâtiments comme celui-là. On n'a nulle part en France cette forme de maximalisme structurel qui fait qu'on arrive ici, on est impressionné, on comprend, c'était la volonté de Taillebert aussi, on comprend comment le bâtiment fonctionne, comment il se structure, voilà, c'est très clair. On a les portiques, on a des poutres qui viennent reposer sur les portiques. Sur les portiques, on a des gradins et on comprend comment le bâtiment fonctionne. Là, on a un projet qui est beau et qui fonctionne. Et ça, c'est très, très important. Ça en jette, quoi. Voilà, ça en jette.
Pour Alain Orlandini, ce stade est beau. Mais le beau est-il universel? Tous béton, est-ce que ça plaît à tout le monde? Nous allons interroger le barman d'un café à proximité et des supporters qui commencent à arriver pour le match.
Est-ce que vous diriez du parc que c'est un beau stade, Parc des Princes?
Pour moi, c'est un des plus beaux, pas des plus beaux, mais c'est un vrai stade de foot. Ouais. C'est-à-dire qu'il résonne, il y a l'ambiance, il y a... Ouais, pour moi, c'est un beau stade de foot.
On dit souvent du parc que c'est un parc à l'anglaise.
Oui,
il y a la même
ouais, c'est un peu vrai,
chaleur.
Ouais. Ça résonne, c'est des vieux stades. Mais c'est... Moi, je trouve bien ce stade. Ouais.
Comment tu trouves le stade
magnifique.
Il est magnifique, on est d'accord.
Ouais. C'est un stade magnifique.
Ouais.
Plein de couleurs. Ne serait-ce le plus beau d'Europe et du monde.
Non.
Avec l'architecture au-dessus du périph, et ça résonne quand on chante.
C'est les couleurs.
Incroyable.
Ah ouais.
Les couleurs sont incroyables.
Ouais. Si je peux dire, vous voulez faire une bonne interview,
c'est un monument. Ce stade me fait chavirer. Et si vous devez décrire le stade dans un seul mot, ça serait quoi?
C'est lui le
Princier, on va dire.
Même son de cloche du côté de mon collègue Philippe Broussard. Il est rédacteur en chef au Monde, il a écrit Génération Supporter, enquête sur les ultras du football, et il fréquente le Parc des Princes depuis 50 ans avec ferveur.
Ce stade n'est pas beau, il est le plus beau. Parce que, tout simplement, c'est un vrai stade de foot avec une proximité du terrain et aussi cet aspect caisse de résonance, c'est-à-dire que le retour de béton autour de la pelouse fait, encore une fois, caisse de résonance et les chants résonnent vraiment. Il y a une atmosphère particulière dans ce stade et je n'ai pas d'autres exemples de stades un peu circulaires comme ça qui ont la même atmosphère. J'aime l'ambiance, j'aime l'odeur, j'aime tout. Je dois en être à peu près 1000 matchs dans ce stade. Je le considère comme une maison de famille que je ne quitterai pour rien au monde.
C'est très beau, mais il n'a pas voulu faire joli. Form follows function. La forme suit la fonction, mais elle la suit d'une façon tellement pertinente que le projet devient plastiquement beau. Les portiques n'ont pas tous la même hauteur. Tu vois, on va avancer. Pourquoi ? La construction naît de l'appréhension du site. Il se dit comment je vais placer le terrain. Il pense le plan en dessinant deux ellipses qui ne sont pas parallèles. Et entre ces deux ellipses, il positionne les gradins. Et là où l'ellipse extérieure s'éloigne le plus de l'ellipse intérieure qui cerne le terrain, et ben fatalement, tu as des gradins qui montent plus haut qu'ailleurs. C'est un projet qui exploite le plus intelligemment du monde les contraintes de site. Bon. C'est-à-dire que là, on a le maximum de place qu'on aurait pu avoir sur la parcelle. On n'aurait pas pu avoir plus.
48 000, c'est le nombre de places au Parc des Princes. Alors c'est peut-être le maximum possible, mais comparé au stade des autres grands clubs européens, c'est un peu faible. Depuis des années, les propriétaires qataris du PSG aimeraient racheter le stade à la ville de Paris pour faire des travaux d'agrandissement. La ville refuse, notamment parce que le prix proposé est trop bas. Alors le club menace de partir au Stade de France. Et ce sujet-là fait débat au bar ou entre jeunes supporters.
C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de place.
Ouais.
Mais bon, ça va être dur d'en mettre beaucoup plus.
Non, il faut pas changer de stade. Le PSG, c'est le Parc des Princes.
C'est le Parc des Princes, on est d'accord, voilà, c'est ce que je te disais.
Parce que nous, on va pas au Stade de France. Hein. Il faut plus de place.
Et comment tu veux faire ?
l'améliorer.
Ah, là, là,
la grandir.
Non, mais tu peux pas la grandir.
Qatar sont blindés, ils ont plein de sous, ils peuvent la grandir. Ils vont trouver une solution, vous allez meilleur architecte du monde, ils peuvent trouver une solution pour agrandir le parc.
C'est moi, je vais le racheter.
Tu le rachètes?
C'est moi, je vais le racheter.
Mais alors, qu'est-ce qui explique que les supporters soient aussi attachés à leur stade? Je pose la question au journaliste Philippe Broussard.
Alors, il faut savoir que pour tout supporter, le stade, c'est un endroit à part. Ça incarne l'amour que l'on éprouve pour un club. C'est bien plus qu'un lieu où on assiste à des matchs. C'est une maison de famille. Et une maison de famille, on ne la quitte pas. On la connaît par cœur. On y a ses repères. On retrouve des gens. On a des souvenirs. Vous savez, par définition, un supporter de foot est nostalgique. Et le stade, c'est sa Madeleine de Proust. Voilà, on regarde toujours un peu derrière, on se souvient des premières fois, on se souvient des grands moments. Et c'est ça, un stade. C'est imprégné d'une histoire. Pour un supporter, les joueurs peuvent passer, il peut y avoir des stars, il peut y avoir des départs. Mbappé partira un jour du PSG. Peu importe, l'essentiel pour les supporters historiques de ce club, c'est que le PSG reste au parc, sa maison. Donc si un jour le PSG devait quitter le parc, sa maison, notre maison, à titre personnel, je n'irai plus au stade.
Il faut dire que ces débats ne sont pas tout à fait nouveaux. L'ombre du Stade de France plane sur le Parc des Princes depuis sa construction dans les années 90. À l'époque, tout cela prend même un tournant politique entre l'État et la ville de Paris, comme le raconte l'historien Julien Sorez.
Marie-Georges Buffet, qui est ministre des Sports de l'époque, fait pression en fait pour que le PSG quitte le parc et devienne le résident du nouveau stade, puisque le gouvernement a passé un accord avec le consortium qui a construit le stade et qui va le gérer, et qui est très coûteux pour le gouvernement s'il ne trouve pas un club résident. Et face à cette pression, à l'approche de la Coupe du Monde, la mairie de Paris prend conscience de la menace et elle essaie d'inciter le PSG à rester dans le Parc des Princes. Et le conseil municipal, donc qui est plutôt de droite, va en fait fédérer les élus de tous bords politiques jusqu'aux communistes pour garder le PSG dans Paris. Il y a des élus de la majorité qui demandent même aux élus de gauche d'intervenir auprès de la ministre pour qu'elle n'incite pas le PSG à partir au Stade de France. On a une forme d'appropriation par le conseil municipal et par extension par la ville de Paris de cette enceinte qui devient vraiment une enceinte qui raconte et qui incarne l'histoire du sport parisien.
Numéro 19, Viola Cagliari. Numéro 20, Amélie Bansgaard.
Pour le moment, Paris a gagné le match politique. Mais revenons au match sportif, il est temps pour nous de rentrer dans le stade avant le début de la rencontre. À l'intérieur, Alain Orlandini tient à montrer une autre innovation de l'architecte Roger Taillibert, l'éclairage intégré au stade.
À l'époque, les trois quarts des stades qu'on construit, t'as quatre piliers aux quatre coins du stade et avec des éclairages, voilà, qui sont accrochés aux piliers en question. Là, ils solutionnent la question de l'éclairage et la question constructive au même moment. C'est là où c'est très astucieux. C'est-à-dire que tu as ces fléaux qui filent en direction de la pelouse. Ces fléaux, il faut les solidariser ensemble. Donc tu as un bandeau qui vient relier toutes les extrémités des fléaux qui se déploient autour de la pelouse et l'éclairage se trouve dans les bandeaux techniques en question. Donc c'est à la fois le solutionnement d'une question constructive et d'une question fonctionnelle. Voilà. Et donc là, les éclairages, ils éclairent. Alors je ne suis pas spécialiste de l'éclairage, mais les éclairages, on n'a pas l'impression de rien voir quand on est ici. Hein. Voilà. C'est un bijou, quoi.
C'est l'heure du coup d'envoi, les supporters parisiens sont derrière leur équipe féminine et les joueuses du PSG mènent la première mi-temps.
Bien joué, elle a raison. Faut tenter dans le football. Moi j'ai discuté un jour avec les joueurs du Paris Saint-Germain, ils disaient tous, mais le Parc des Princes, c'est le plus beau stade de France.
Parmi les joueurs mythiques du PSG, on peut citer le Brésilien Ray Oliveira. Au téléphone, il me raconte qu'avant même de jouer pour le PSG, c'est en tant que capitaine de l'équipe brésilienne qu'il a découvert le Parc des Princes, c'était en 1992.
Le match Brésil-France, on a gagné. Je marque un but, la tête. Et là, j'ai commencé, ouais, ça a commencé cette magie entre... et moi et cet stade. L'architecture fait partie, bien sûr, il y a l'acoustique. Et c'est à la fois un stade de presque 50 000 personnes, mais en même temps, avec un côté chaleureux, la proximité des supporters qui sont juste à côté, on peut les toucher. C'était quelque chose qui au Brésil ça n'existait pas. Aujourd'hui au stade anglais ça existe, donc c'est pas partout qu'on voit ça. Et bien sûr une beauté m'a beaucoup touché. C'est toujours de faire attention, c'est le côté esthétique aussi. Les équipes, j'étais plus fier de jouer, ils jouaient avec une beauté esthétique aussi. Donc ça m'inspirait à avoir de l'élégance aussi, d'avoir un beau jeu pour mériter d'être dans ces grands théâtres. Mais aussi, chaque fois que je passe en face du parc, c'est comme si je passais en face de n'importe quel autre monument qui fait partie de l'histoire de la France.
Alors, entendra-t-on encore longtemps les fidèles supporters du PSG faire vibrer le Parc des Princes ? Ce soir, en tout cas, ils sont heureux. Après 90 minutes de match, les Parisiennes ont gagné 2-1 contre les Romaines.
Vous avez écouté Archi Intéressant, un podcast du Monde en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, réalisé par Quentin Tenot. Suivi éditorial, Josefa Lopez et Emmanuel Davidenkoff.